L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour cet atelier numérique. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve comme chaque samedi sur BFM Business pour 2 heures dédiées aux nouvelles technologies en ce samedi 27 juin 2015. Toute l'équipe de l'atelier là, enfin presque toute l'équipe. Dans ce studio, nous avons Aurore Géraud, Lila Megraoua et Antoine Cyr. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Du côté de San Francisco, nous avons aussi Nathalie Doré. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Qui va nous parler dans un instant d'un bracelet connecté Google, mais qui met à la poubelle tous les bracelets connectés qu'on a pu vous faire découvrir il y a quelques temps. Ce sera dans une minute. On va aussi retrouver les cybergadgets d'Antoine, aussi notre portrait d'innovateur, notre focus startup tout à l'heure avec Pop My Day. Aurore Géraud, c'est le Uber de la beauté. On n'en a pas besoin, nous, dans ce studio.
Non, on est tous magnifiques.
J'allais vous le dire. Notre enquête de l'atelier, on découvrira l'avion connecté avec François Baqueta, qui est directeur général d'EasyJet. EasyJet qui passe, on va dire, la seconde en matière d'innovation, avec plein de choses intéressantes, à la fois pour les passagers, mais aussi pour la maintenance des avions avec des drones. C'est passionnant, ce sera tout à l'heure. Notre web stratégie, on évoquera les smart cities, notre passion selon Sanet. On parlera de l'entreprise libérée grâce au numérique. Et puis, tout à l'heure aussi, notre World Tour direction le Portugal. La rédaction de Zeronet.com et puis le crash test d'Antoine Cyr tout à l'heure, les amis.
Alors, le crash test sera consacré à un mot qui est le mot matutinal.
Ah, mais bien sûr.
Voilà. Et alors, tout est parti de la plainte des lycéens. Vous savez, les lycéens qui passaient leur bac en anglais se sont plaints du fait qu'ils avaient l'expression « to cope with », qui veut dire en gros « faire avec »,« se débrouiller avec », et qui est une expression anglaise, mais archi. Enfin, vous pouvez pas lire un article de 3 colonnes dans un journal anglais sans tomber sur l'expression « to cope with », quoi. C'est un truc...
D'accord.
Voilà. Et donc, ils ont quand même fait une pétition, voilà. Et donc, peu de chemin faisant, je suis arrivé à un crash test sur le mot matutinal, qui lui, vous conviendrez, est un mot assez rare.
Oui,
donc je me suis demandé ce qui se passerait si on soumettait ce mot aux étudiants français et anglais.
Voilà, est-ce que de la même manière on peut dire « oh ben toi t'es matinal » ou alors « toi t'es matutinal »
Eh bien, en fait, oui.
Ah, bah écoutez, on verra tout à l'heure, ça sera le crash test d'Antoine en toute fin de ce rendez-vous de l'atelier. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence par l'actu vue par l'équipe de l'atelier. Nathalie, on va commencer par vous depuis l'atelier San Francisco, l'atelier US, avec cette annonce de Google, donc ce bracelet connecté, on va dire hyper sophistiqué, hein, visiblement.
Oui, tout à fait. Alors, Google fait une grosse annonce dans les objets connectés. Alors, on connaissait déjà l'intérêt de Google pour ce secteur, hein. Vous savez, il a racheté l'an dernier le fabricant de thermostats connectés Nest pour plus de 3 milliards de dollars. Ça fait beaucoup parler d'eux. Et là, il s'agit du domaine de la santé. Puisqu'en fait, ce bracelet connecté, qui est tout frais sorti du fameux lab de Google, le Google X, mesurera la santé des patients. Alors, il mesure le rythme cardiaque, le pouls, la température de la peau et l'exposition à l'environnement, tel que la lumière ou le son. Alors, comme vous le disiez, François, ce ne sera pas un énième bracelet connecté sur le marché, parce qu'il y en a eu déjà pléthore. Google n'a pas l'intention d'approcher le marché du bien-être et de la prévention. Selon Andy Conrad, qui est donc spécialiste scientifique chez Google, leur intention est de fournir un accessoire médical qui serait prescrit aux patients ou utilisé lors de tests cliniques. Donc en fait, en portant le bracelet, les patients pourront vivre normalement et partager des infos importantes avec leur médecin sans avoir forcément besoin d'aller voir le médecin pour donner ces infos-là. Donc c'est une nouvelle façon de se faire suivre pendant un traitement.
Mmh.
Et selon Google, les trackers actuels ne sont pas assez efficaces pour procéder ainsi. C'est pour ça qu'ils lancent leur propre bracelet. Alors, difficile de dire à ce stade quel sera le taux d'adoption des médecins, parce que ça change leur façon de travailler. Mais une chose est sûre, Google ne s'arrêtera pas là. Conrad pense qu'un jour, dans 20 à 30 ans, il dit, les médecins donneront ces bracelets à tous leurs patients, même ceux en bonne santé, pour améliorer la prévention. Voilà, Google voit grand une fois de plus.
On a un secteur
de la santé.
On a des dates de sortie, des choses un peu précises concernant ce bracelet?
Non, pour l'instant, ils ont dit donc que ce sera une date de sortie vis-à-vis des médecins et des hôpitaux. Donc, pas de sortie grand public en B2C, mais ils n'ont pas communiqué la date.
Très bien. Merci Nathalie. Et on enchaîne avec Aurore Géraud qui a une petite news pour nous. Et après ce sont Antoine. Je dis ça pour qu'Antoine se prépare parce qu'il est un petit peu dissipé en ce samedi après-midi.
Oui, donc petite news, je vous parlais la semaine dernière des robots et puis des robots dans le tourisme qui risquent de remplacer les femmes de ménage ou les personnes à l'accueil tout simplement. Là, je vous pose la question à vous, François. Est-ce que vous pensez que d'ici 20 ans, vous serez remplacé à l'atelier numérique par un robot ?
Oh mon Dieu, quelle horreur ! Écoutez, franchement, je sais pas trop. Est-ce que c'est... Vous pensez que c'est possible ? Peut-être, hein, qui sait ?
Peut-être.
Ouais.
En tout cas, des chercheurs de l'université d'Oxford sont posés la même question et pour tout un tas de métiers différents. Et ils ont développé en fait un partenariat avec le National Public Radio américaine pour créer une calculatrice en ligne qui prédit au pourcentage près si un robot va vous voler votre travail. Donc ça s'appuie sur une étude évidemment effectuée sur tout un tas d'emplois et sur lesquels les chercheurs ont analysé le degré de qualité humaine nécessaire pour effectuer cet emploi, notamment le contact avec les gens, tout ce qui est négociation et même l'emplacement physique sur un lieu de travail. Et voilà, du coup je vois que j'ai été vérifiée pour animateur radio journaliste.
Et alors qu'est-ce que ça
et
donne?
Et seulement 10,2% de risque d'être remplacé par un robot dans 20 ans.
Ah bon, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Mais dans 20 ans, j'espère que... Hein, bon, on verra, on aura l'occasion d'en reparler. Antoine ?
Ce qui est inquiétant, c'est qu'on parle quand même beaucoup de disparition des métiers avec tout ça.
Oui.
Et évidemment, alors on parle beaucoup d'ubérisation. Alors, bon, vous avez vu qu'en Californie, les tribunaux locaux ont condamné Uber. Enfin, pas exactement condamné, mais ont assimilé les chauffeurs d'Uber à des salariés, ce qui évidemment complique beaucoup le modèle.
Bien sûr.
A vu qu'en France, ça se passait pas très bien entre chauffeurs de taxi et chauffeurs d'Uber qui avaient justement un œil Uber noir.
Uber noir, donc.
Oui.
Elle est bien. Non, elle est bien.
Oui, écoutez. Si ce n'est quand même que la personne s'est fait quand même un peu massacrer. Hein,
oui, donc, non, mais le jeu de mots, je parlais.
Oui, le jeu de mots, mais je sais. Mais j'ai un peu hésité parce que là...
Oh, ça va.
Bon, voilà, bon. Aux États-Unis, ce sont les tailleurs qui sont sur le point de se faire ubériser. Alors, c'est très simple. En fait, c'est le fondateur d'une maison de confection américaine qui s'appelle Men's Warehouse, qui a créé une start-up qui s'appelle Z Tailors. Alors là, je vous le dis avec l'accent français, évidemment. Et donc, en fait, c'est une plateforme d'ubérisation ou d'Uber du petit tailleur. Sur cette plateforme, vous allez pouvoir localiser le tailleur qui peut vous faire, par exemple, un petit ourlet de jean, enfin des choses quand même assez pratiques, qui est le plus proche de chez vous, et demander à le voir à domicile, au bureau, ou éventuellement, par exemple, dans un Starbucks, puisqu'on est dans un pays où il y en a beaucoup. Donc le fameux ourlet de jean dont je parlais coûterait $15. Il y a des ajustements qui coûteraient jusqu'à $20. Pour l'instant, ça se développe à New York et à Los Angeles, mais ça pourrait être bientôt étendu à tous les États-Unis. Alors, ils ont pour ça recruté une cohorte de community managers, un peu comme l'a fait Airbnb, qui regardent autour d'eux pour voir quels sont les tailleurs réellement compétents qui pourraient faire partie du réseau. Voilà.
Pas mal, hein ? L'ubérisation de l'économie est en route, les amis.
Oui.
Et donc, encore un exemple.
Oui. Et puis surtout, ça pourrait éventuellement sauver la profession de tailleur qui est un peu mise à mal aux États-Unis, notamment.
Et oui.
Exactement.
Donc là, on a un cas d'ubérisation qui peut sauver une profession.
Exactement. Positive.
Très bien. Lila, justement, une petite news.
Et oui, je vais vous parler de la bataille des drones.
Oula.
Contre les moustiques.
Alors là, drone versus moustique.
Alors là, incontestablement, c'est un bienfait du drone.
Hein. Ah oui.
Cette saison.
Ça, c'est bien.
Alors en fait, c'est tout simplement Microsoft qui travaille à des drones chasseurs de moustiques. Pour faire quoi ? Pour endiguer les épidémies. Alors apparemment, il s'agirait de drones autonomes qui serviraient plus ou moins de piège à moustiques. Donc en fait, c'est un projet qui a été baptisé Project Premonition et qui à la fois donc capturerait les drones autonomes, ferait leur ronde dans les zones à risque, capturerait les moustiques et ensuite rapporterait ces moustiques à la maison, enfin auprès des chercheurs, et ces chercheurs seraient en mesure d'analyser à partir du sang aspiré par les moustiques si un virus est en marche ou en passe de devenir une épidémie. L'avantage de ces drones, c'est qu'ils sont pas gourmands en énergie, ils sont équipés de batteries légères. Alors pour l'instant, malheureusement, ils ne sont que semi-autonomes, mais Microsoft travaillerait à les rendre un peu plus autonomes. Et ce qui est pas mal, c'est que pour éviter de se faire damer le pion par la Federal Aviation Administration qui régit plus ou moins l'envol des drones. Mm-hmm. Donc en fait, ces chercheurs de Microsoft travailleraient main dans la main avec la FAA. Donc c'est plutôt prometteur.
Très bien. À bas les moustiques avec les drones. Antoine.
Alors moi, je vais vous parler d'une application coupe-faim.
C'est bien.
J'ai à peu de jours maintenant de paraître en maillot sur la plage, voilà. Mon cher François.
Alors, il fallait peut-être donner cette information quelques semaines avant.
Il me semble que vous avez déjà attaqué le sujet là, pourtant.
C'est-à-dire.
Je vous trouve de fort belle humeur.
Alors là, écoutez, enfin, Antoine, je suis un peu surpris, mais écoutez, je prends ça comme un compliment.
C'en est un.
Très bien.
Alors, donc cette application...
J'ai un peu m'éloigné quand même.
Cette application Google serait donc en mesure de compter les calories sur les photos de nourriture. Voilà, c'est ça l'idée.
Ah bon ?
Ça s'appelle IM2 Calories. J'essaye, après m'être tant vanté, de prononcer ça avec un accent à peu près supportable. Mais donc, grâce à un système de reconnaissance d'image, cette charmante application va être capable d'identifier la nourriture sur les photos. Sauf qu'en analysant les mets, elle pourra déterminer le nombre de calories contenues dans chaque repas. Alors, pour l'instant, il paraît quand même que l'application se trompe dans 20% des cas. Donc, il faut faire attention. Parce que voilà, si elle vous...
Oh là là, ce hamburger ne fait que 10 calories,
oui,
c'est chouette,
oui,
je vais en manger quelques-uns.
Ces profiteroles ne font que 5 calories.
Vous savez que moi,
si un jour, j'ai décidé que si un jour...
D'arrêter la profiterole.
Non, au contraire, ce qu'à Dieu ne plaise, si un jour je suis fatigué de la vie, je voudrais mettre un terme à mes jours en mangeant des profiteroles.
C'est pas vrai.
Si.
Non, mais
si.
Vous dites ça comme ça, pour faire un peu le spectacle.
Non, c'est
cet
vrai.
Cet après-midi, c'est vrai.
C'est vrai.
Vous adorez les profiteroles.
J'adore les profiteroles.
Et vous pourriez en manger jusqu'à l'agonie.
Jusqu'à l'agonie.
C'est pas vrai.
Si.
Tiens. Bon, écoutez, voilà. Ça, c'est...
Voilà. Donc,
votre meilleur ennemi qui écoute peut-être l'atelier numérique sait comment il peut vous tuer.
Exactement.
Finalement.
Si l'appli ne dit qu'il y a seulement 5 calories dans les profiteroles, effectivement, ça va
vous
pas
en
se
manger
passer
beaucoup.
Très bien. Alors, ils ont quand même mis 200 000 euros sur la table pour améliorer cette application qui a été brevetée. Hein. Rappelons que c'est Google quand même qui a fait ça. Donc là, c'est l'équipe de première division qui prend le sujet en main. C'est peut-être pas idiot, on va voir.
On va voir ça. Intéressant en tout cas. Lila Megraoua.
Une petite info.
Allez, on y va.
Alors, et si on utilisait le Wi-Fi pour rendre les bâtiments plus intelligents, à savoir pour rendre les bâtiments plus efficaces énergétiquement. J'ai eu du mal. Alors, c'est tout simplement l'initiative, une idée de chercheurs de l'Université de Californie qui, en fait, ont mis au point un système qui permet à la fois de mesurer l'activité humaine dans un immeuble grâce aux signaux Wi-Fi. Le principe est assez simple. Plus des gens passent devant un champ dans un champ Wi-Fi, plus les signaux Wi-Fi sont affaiblis et plus les chercheurs vont être en mesure, grâce à cet affaiblissement des signaux, de déterminer, en fait, grâce à un algorithme, le nombre de personnes présentes. Donc, en fait, à partir de ça, à partir de ça, ils vont être capables d'adapter automatiquement et au plus près les besoins, par exemple en chauffage,
en lumière. Oui, le Wi-Fi devient un capteur en quelque sorte.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. Alors, les chercheurs, ils voient pour l'instant un intérêt pour fournir, par exemple, des estimations du nombre de personnes à secourir en cas de catastrophe dans un lieu donné. Ou mieux, on pourrait imaginer, par exemple, en magasin, appliquer ce principe pour un meilleur agencement des rayons.
Parfait, voilà. Le Wi-Fi donc, à la rescousse des grands bâtiments. Merci Lila, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec au menu le cybergadget d'Antoine et notre portrait d'innovateur, ce sera dans un instant. A tout de suite sur BFM Business pour la suite de cet atelier.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, le gadgetto d'Antoine dans une minute. Mais auparavant, c'est notre portrait d'innovateur. Tiens, un sujet qui va vous intéresser si vous êtes sur la route. On va découvrir un logiciel d'analyse de somnolence en voiture. Justement, c'est d'actualité. Et c'est avec vous, Aurore Géraud, vous avez rencontré le CEO de Fazia.
Alors aujourd'hui, pour notre portrait d'innovateur, nous avons avec nous Jérôme Wertz. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jérôme est CEO de Fazia et aujourd'hui lauréat des MIT TR35. Et donc pour notre portrait d'innovateur, on va lui demander comment on arrive aujourd'hui à un tel projet.
Oui, donc notre projet consiste à développer des technologies pour mesurer la somnolence, pour la sécurité. Et donc, en fait, ce projet a été lancé à l'Université de Liège par le professeur Jacques Verly, qui m'a engagé, en fait, sur ce projet-là à la fin de mes études. Et donc, j'ai géré le projet de recherche et développement et nous avons créé une société pour valoriser cette technologie ici au mois de décembre.
Quelles études mènent à s'intéresser à la somnolence? Quel parcours sensibilise, en fait, à cette cause?
Je ne pense pas qu'il y ait un parcours typique pour s'intéresser à ce genre de problème. Disons qu'il faut s'intéresser d'abord à l'humain, avant tout, et à la technologie ensuite. Et donc, bon, d'un point de vue personnel, j'ai déjà une sensibilité, puisque ma maman s'est endormie sur la route et a fait un accident. Donc ici, c'était plus une question d'opportunité, où un projet de développement de technologie pour détecter la somnolence a été lancé à l'Université de Liège. Et donc j'ai été engagé sur ce projet pour gérer le projet et le développer. Donc voilà, c'était plus une question d'opportunité dans mon cas.
D'accord, et du coup, quelles études avez-vous suivies?
Donc je suis ingénieur industriel de formation. Et j'ai également fait un executive master en gestion.
Comment, d'un point de vue technique, fonctionne votre technologie?
Notre technologie est basée sur une analyse très précise de paramètres oculaires. Dans un premier temps, nous avons développé une paire de lunettes intégrant une caméra haute vitesse. Et donc, à partir des images de l'œil obtenues, nous pouvons, à l'aide d'un logiciel, déterminer l'état d'éveil ou de somnolence d'une personne et donc associer cet état d'éveil ou de somnolence à un niveau de risque. Et par conséquent, on peut prendre donc des actions pour réduire le risque d'accident. Et cette technologie peut être intégrée dans d'autres plateformes que nos lunettes. Donc on pourrait imaginer peut-être la prochaine génération des Google Glass ou également dans des systèmes à distance comme une caméra dans le tableau de bord.
Oui, j'allais dire comme une caméra ou peut-être, pourquoi pas, via le pare-brise.
Ça pourrait être une possibilité d'un point de vue optique dans le futur. Donc nous, vraiment, à partir du moment où on a des images de l'œil ou des paramètres oculaires, nous, on peut déterminer l'état d'éveil ou de somnolence de la personne. Donc quel que soit le moyen d'obtenir ces données.
D'accord, très bien. Du coup, quelle est la suite pour vous d'un point de vue professionnel et pour la technologie? Mais la technologie, vous avez déjà répondu.
Donc, nous avons créé la société en décembre dernier. Donc là, pour l'instant, nous sommes vraiment en phase de business development, de commercialisation, avec notre première technologie basée sur les images de l'œil. Mais on a vraiment acquis une grande expertise dans le domaine de la détection de la somnolence. Et donc, toute notre expertise peut être appliquée également à d'autres paramètres que juste les images de l'œil. On pourrait imaginer des solutions basées sur les expressions faciales ou d'autres paramètres physiologiques, peut-être le rythme cardiaque par exemple.
Et du coup, ça apporte quoi d'être lauréat d'un prix comme le MIT TR35?
Premièrement, c'est une reconnaissance et puis ensuite, c'est très important pour nous parce que ça apporte de la crédibilité et de la visibilité dans notre projet. Donc en étant une très jeune start-up, ça nous permet évidemment de créer un réseau et des contacts supplémentaires pour nous aider à développer la technologie et le business.
Aurore, merci. Et place maintenant au gadgeto d'Antoine Cyr. Antoine qui a potassé son gadgeto, il va nous le faire découvrir maintenant. Alors Antoine, au menu.
Alors d'abord je vais vous parler du batteriseur.
Le
batteriseur.
Le batteriseur.
Alors, le batteriseur, voilà, tout part au départ du fait que on consomme énormément de piles et que les piles sont très polluantes. Parce que, évidemment, c'est de l'acide, etc. Enfin, c'est matière extrêmement polluante. Est-ce que vous savez, par exemple, combien les Français consomment de piles par an, en poids?
En poids, en plus?
En poids.
Non, je sais pas, moi. Ça doit être énorme. Des tonnes et des tonnes.
27 000 tonnes.
27 000 tonnes de
27
piles.
000 tonnes de
Et encore,
piles.
Je pense que ça doit se décélérer, puisqu'aujourd'hui, on a des batteries dans les appareils qu'on recharge.
Il y a 27 000 tonnes de piles. Donc, prenez une petite voiture, genre une Fiat 500, ça doit peser une petite tonne.
Donc
27 000 Fiat côte à côte, ça, c'est toutes les piles que vous consommez en France. Hein.
Oh,
je n'ai pas dit en Chine, en Inde, etc.
Rien qu'en France,
voilà. Donc, c'est tout à fait considérable. Et ça pose évidemment des problèmes de recyclage, de stockage, de pollution qui sont très importants. Alors, mais je vais vous en dire beaucoup, vous allez voir sur la vie des piles, le batteriseur est un système qui a pour objectif de prolonger la vie d'une pile classique de 800%.
Ouh là là.
Alors, c'est d'autant plus intéressant que selon une étude, vous savez qu'en réalité, on n'utilise que 20% de la capacité réelle des piles. Pourquoi ? Parce que quand une pile de 1,5 volts a été consommée à 20%, elle ne fait plus que 1,3 volts et la plupart des appareils qui demandent 1,5 volts ne fonctionne plus.
Ah voilà, donc en fait elle a encore énormément de capacité, mais elle ne donne pas la puissance qu'elle devrait donner pour l'appareil.
Et non.
Mais c'est terrible
mais
ça.
Mais oui, c'est terrible, vous vous rendez compte? C'est un gaspillage incroyable.
Ah oui, oui,
bon.
Oui.
Et donc, le batteriseur réglerait ce problème en maintenant le voltage à 1,5 volts, d'où donc un prolongement de la vie de la pile de 800%. Alors c'est ce petit objet low-tech, mais vraiment très pratique, vient d'être commercialisé par la société Batteroo Inc. Alors c'est une technologie qui apparemment existait déjà auparavant, mais la prouesse du batteriseur réside dans le fait que le circuit qui maintient la tension à 1,5 volts se trouve miniaturisé dans un fond en métal qui est épais de moins d'un millimètre. Il est compatible avec pas mal de types de piles et il ne coûte que 2 euros.
Pas mal ça, tiens, est-ce que ça pourrait peut-être changer le paysage des piles
non pas changer la face du monde, mais changer la pile du monde.
Exactement, oh, c'est joli ça, bravo Antoine. Vous en gardez quand même pour le crash test tout à l'heure?
Oui.
Hein, qui est sur...
Matutinale.
Voilà. À tout de suite. On retrouvera Antoine à la fin de cet atelier. Et nous, on revient dans une minute pour notre focus startup et notre enquête de l'atelier.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, on va s'intéresser à l'avion connecté avec notre invité François Baqueta, qui est le directeur général d'EasyJet pour la France. Mais auparavant, c'est notre focus startup. Et cette semaine, avec Aurore Géraud, on va découvrir PopMyDay. Aurore.
Aujourd'hui, pour notre focus startup, je suis avec Morgane Lostis et Charles Berenguet, cofondateurs de Uber de la beauté PopMyDay. Bonjour Morgane, bonjour Charles.
Bonjour Aurore.
Bonjour, enchanté.
Du coup, est-ce que vous pourriez me dire d'abord 2-3 mots sur votre startup ?
Donc, notre startup s'appelle PopMyDay et c'est une application mobile qui vous permet de profiter de services beauté et bien-être partout et à tout moment, c'est-à-dire chez vous ou au bureau, ça peut être en journée, en soirée et même le dimanche.
Et si je suis utilisatrice, comment fonctionne exactement l'appli ?
Vous allez télécharger l'application qui va vous permettre de choisir un soin, de le réserver et de payer directement sur notre plateforme. Voilà, et dans le même temps, nous, on va envoyer une notification à tous les pros qui sont à proximité de vous.
Et du coup, comment vous avez choisi quel est le système de recrutement?
Alors, on a un mode de sélection qui se constitue en plusieurs étapes. Donc, déjà, les partenaires postulent en ligne sur notre site, puis on les rencontre une première fois dans nos bureaux. Ensuite, on fait un test, un essai technique avec eux pour vérifier que tout leur matériel est en bon état, respecte les règles d'hygiène. Et si tout ça se passe bien, arrivé au bout du process, on les accepte dans notre réseau partenaire et ils deviennent des pop artistes.
Et du coup, comment vous est venue l'idée, tout simplement, de vous lancer dans tout ce qui est service beauté?
Alors, en fait, à titre personnel, on n'était pas complètement et entièrement satisfait de l'expérience qu'on avait en institut, en salon de beauté, où on avait souvent le sentiment de passer à la chaîne, et en plus de ne pas avoir de salon ouvert en dehors des horaires de bureau, donc là où on était disponible. Et dans le même temps, Charles et moi, on était des grands utilisateurs des nouvelles applis mobiles qui permettent de commander soit des plats, soit des chauffeurs privés. Et on s'est dit, pourquoi pas transcrire ce concept de Uber donc à un secteur qui ne le connaît pas, au secteur de la beauté.
Donc du coup, Uber de la beauté, pourquoi c'est un peu votre modèle, hein?
Comme le disait Morgane tout à l'heure, avant de devenir pop artiste, on passe par un entretien et un essai. On a un réseau qui est un peu un réseau en propre. C'est-à-dire qu'on n'est pas une place de marché, on n'est pas le bon coin et tout le monde ne peut pas rejoindre notre réseau.
Super. Et alors je sais que vous êtes passé par l'incubateur d'HEC et par le Numa Sprint. Là, vous volez de vos propres ailes et vous partez indépendant. C'est quoi la suite?
Alors nous, la suite pour le moment, c'est de continuer de développer Pop My Day à Paris. On a encore beaucoup de femmes et de futures utilisatrices à conquérir. Et puis la prochaine étape pour nous, ça va être d'ouvrir une nouvelle ville en France ou à l'étranger et d'élargir la gamme des services que l'on propose. Puisque par exemple aujourd'hui, on ne propose pas encore tous les services de coiffure. On ne propose que du coiffage. Et pas de coupe, par exemple.
Merci beaucoup Morgane Lustis et Charles Béranguet. Vous êtes donc cofondateurs de Pop My Day. C'était le Focus Startup.
Aurore, merci. Et place maintenant notre enquête de l'atelier sur BFM Business. Nous allons parler d'un sujet qui vous passionne si vous prenez l'avion de temps en temps, et peut-être même à l'approche de ces vacances qui arrivent. On va parler de l'avion et de l'avion connecté. Simplement avec une petite appli mobile, vous pouvez changer votre parcours voyageur. Comme on dit, on va en parler, Lila, avec notre invité.
Mais oui, tout à fait, avec François Baqueta. Vous êtes directeur général d'EasyJet pour la France.
Bonjour.
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 Alors, vous avez d'ailleurs organisé l'Innovation Day, spécialement dédié aux innovations EasyJet, début juin dernier à Milan. Alors, dites-nous, enfin... c'est dans l'innovation, ça fait partie de l'ADN d'EasyJet.
Oui, effectivement, mais depuis le début, vous savez, on a 20 ans cette année, on était challenger, donc on essaye de faire les choses mieux, différemment. Donc l'innovation, c'est dans notre ADN, effectivement. Et aujourd'hui, l'entreprise est digitale, hein, c'est pas le futur, c'est aujourd'hui, c'est déjà le cas.
C'est-à-dire qu'en plus, tous ces outils digitaux vous font gagner de l'argent. Enfin, voilà, oui, c'est vrai, ça vous fait gagner de l'argent et gagner du temps. Donc tout le monde est content finalement, non?
Oui, alors ce qu'on cherche évidemment d'abord...
Parce que vous êtes toujours une entreprise de cost, on va dire.
Absolument, donc on essaye à la fois, vous savez, gagner en productivité... veut pas dire amoindrir la qualité.
Non.
On cherche avant tout la qualité de service. Et si en même temps vous avez la qualité de service, une meilleure sécurité, notamment si on parle de drones ou des choses comme ça, et un meilleur service au client, tout le monde est content et ça nous permet de maintenir un bon rapport qualité-prix qui est notre combat quotidien.
Alors justement, vous citiez le cas des drones. Vous avez présenté à Milan un exemple assez spectaculaire de drone qui servait à inspecter les avions, il me semble. C'est
oui,
ça
c'est ça. En fait, ce sont des drones. Alors, tout le monde en parle en ce moment parce qu'on essaie de voir comment on peut l'utiliser dans toutes les industries. En fait, on s'est dit, on peut utiliser les drones dans la maintenance. Il faut savoir qu'un avion, il passe à l'inspection tous les 90 jours. Et tous les 90 jours, il est immobilisé pendant 2 jours. Il y a une journée pendant laquelle l'ingénieur va inspecter tous les points critiques du moteur, de la carlingue. Et on s'est dit, en fait, on peut à la fois améliorer et réduire le temps d'inspection en améliorant la qualité de l'inspection et donc de la sécurité, en utilisant des drones équipés de nouvelles optiques à réalité augmentée, qui permettent d'avoir une meilleure qualité de l'inspection, mais au lieu de passer une journée dessus, d'abord on utilise beaucoup mieux le temps de l'ingénieur, mais ça, en quelques heures c'est fait. Donc c'est ça l'avantage, donc vous gagnez une journée tous les 90 jours sur tous les appareils.
Et
donc,
pour vous, c'est énorme gagner les jours. Enfin, mais, parce que bien l'avion entendu, qui est immobilisé pendant 48 heures, c'est un manque à gagner énorme.
Exactement. Donc, ça nous permet de, avec le même avion, le mettre en service plus souvent. Et donc, ça nous fait gagner des passagers, ça améliore la productivité.
Et alors, le drone survole l'avion, enfin, survole, on va dire, les parties sensibles de l'avion, ouais, j'allais dire. Et les films. Et après, donc, quelqu'un analyse ces images.
Devant un écran, avec ces nouvelles optiques, permet de zoomer, de s'arrêter, de vérifier toutes les parties les plus critiques avec une finesse jamais égalée auparavant. Avec les nouvelles optiques aujourd'hui, vous avez une finesse d'analyse, vous pouvez identifier des micro-fissures, des choses comme ça, beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est avant tout une amélioration de la sécurité, de la qualité de l'inspection, qui nous fait aussi gagner de la productivité. Un exemple qui montre que améliorer la productivité, ça veut pas dire, et on le fera jamais, minorer la qualité,
la qualité, de la sécurité.
En tout cas, jamais, bien entendu.
Sur l'aspect maintenance réparation, vous avez également recours à l'impression 3D de pièces. Pièces de rechange.
Oui, alors, pour l'instant, c'est pour des pièces, par exemple, les accoudoirs, des sièges, des choses non critiques, mais c'est un partenariat avec Snecma. Oui, donc avec Snecma, parce que ça permet de réduire le stock de pièces détachées et ça permet aussi d'améliorer la disponibilité de la pièce détachée. Il faut pas attendre que ça soit transporté. Donc, c'est des tests qui sont en cours. Après, dans la maintenance, c'est aussi une autre initiative qui vise à améliorer encore une fois sécurité, qualité de service et productivité. Et c'est un partenariat avec Airbus. Ça, c'est plus dans le big data, si vous voulez. On va avoir accès avec Airbus aux milliards de données sur les 320.
Donc les Airbus A320.
Oui, qui est notre flotte, d'accord. On est 100% Airbus chez EasyJet. Et simplement, en vol, on reçoit les données en temps réel sur tous les paramètres. Et ça nous permet de faire de la maintenance proactive. Vous savez, de temps en temps, il y a des occurrences de maintenance, mais ça fait prendre des retards aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais on l'a réduit d'ailleurs ces 5 dernières années, mais c'est 6 cas sur 1000 vols, il y a 6 cas comme ça, il faut faire intervenir l'ingénieur à l'ESCA, etc. Le fait de gérer ça en temps réel, on peut faire de la maintenance proactive parce qu'on va détecter la probabilité que telle pièce va devoir être changée. Et donc, encore une fois, c'est pour améliorer la qualité de service, moins de retards, meilleure ponctualité et meilleure sécurité, parce qu'on aura agi avant que l'événement se passe. On parle de petites choses, mais c'est l'ensemble de ces petites choses qui fait que déjà aujourd'hui, on est une des compagnies les plus ponctuelles d'Europe et des plus sûres, et on va continuer à travailler comme ça. Donc là, c'est un exemple de big data avec des flux en temps réel qui nous permet de gérer ça. Et puis, il y a des applications pour le service aux clients.
Mais alors ça, on est plus pour l'expérience client, parce que là, tout ce dont on a parlé, ça vous facilite la vie à vous.
Non, et aux clients, parce que moins de retard, meilleure gestion de la maintenance, c'est d'abord notre premier devoir, c'est la sécurité.
Voilà, aujourd'hui, toutes les grandes compagnies ont une appli mobile, elles sont même, pour certaines, sur les montres connectées aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous y êtes aussi.
On était au lancement d'Apple Watch avec notre appli mobile.
C'est ça.
Depuis l'avril, depuis que c'est sorti, le premier jour, EasyJet, vous aviez accès via l'Apple Watch, on a développé quelque chose avec eux, pour avoir notamment des notifications push avec leur technologie pour informer les clients sur leur vol personnalisé en temps réel. Donc vous avez accès à ça si vous avez l'Apple Watch.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'appli mobile d'EasyJet qu'on peut pas faire avec d'autres applis mobiles, d'autres constructeurs, en tout cas d'autres transporteurs.
D'abord, sur l'appli mobile, on était pionniers, on se veut leader du digital. C'est l'appli la plus rapide du marché. Donc vous avez les informations en temps réel et rapidement et simple, la simplicité et fait partie de l'ergonomie et de la qualité. Si vous passez 3 heures à essayer d'identifier à travers les icônes ce que vous voulez.
Donc on peut acheter un billet, avoir le billet directement sur l'appli mobile.
Vous avez la carte d'embarquement, vous pouvez scanner votre passeport. Ça, c'est les choses. Et puis, on a notre outil Flight Tracker. Qui vous donne les informations sur votre vol en temps réel.
Je vous coupe concernant le passeport, le scan, ça sert à quoi? Parce que est-ce que ça,
pour
ça,
réserver ça... en fait.
D'accord. Parce que malgré tout, quand je passe aux douanes, je serai obligé de montrer mon vrai passeport. Je pourrais pas montrer l'appli.
Mais aujourd'hui, pour réserver, vous savez, ça fait partie des renforcements de mesures de sécurité en Europe. C'est, vous devez donner les données de votre passeport, le numéro, etc. Donc comme ça, une fois que vous l'avez fait une fois, c'est fait une bonne fois pour tout. Vous n'allez pas dire, ah, c'est quoi mon numéro de passeport pour le rentrer. Donc ça simplifie la vie. Ça, c'est la première chose. Et surtout, il y a des informations de service. On va vous dire si votre vol peut être en avance aussi, s'il est en retard, s'il a 5 minutes de retard, s'il est là, de se rendre en porte. Donc, si vous allez, vous êtes stressé parce que vous devez aller à l'aéroport, est-ce que je suis en retard? On va vous dire non, votre vol est à l'heure, il est à tel endroit. Parce que l'information vient directement sur votre appli du centre de contrôle des opérations d'EasyJet. Donc, s'il y a un retard, on va vous expliquer les causes, etc. Donc, c'est ça aussi, dans l'optique de meilleur service, on va développer, on va encore aller plus loin demain. On a des choses en test là aussi. Mais aujourd'hui, franchement, ça vous change la vie. Votre compte d'embarquement, elle est là. Vous avez l'information sur votre vol. Vous avez tous les éléments essentiels et utiles pour vous. Et on va l'enrichir encore demain, notamment pour le traitement de la crise. Si jamais il y a des vols annulés, que quoi faire? On va aller améliorer l'information au client. Aujourd'hui, il y a et ça fait partie des reproches qu'on fait généralement aux compagnies aériennes. Quand il y a un problème, on n'est pas bien informé. C'est extrêmement difficile parce que c'est humain. La personne peut être allée ailleurs pendant que la personne expliquait ou etc.
Et puis surtout, il y a 200 personnes dans un avion, donc
exactement.
C'est, on peut pas tous être au bon moment et être informé.
Exactement. Donc ça permet encore une fois d'améliorer la qualité de service, d'éliminer le stress inutile de qu'est-ce qui se passe, je fais quoi, comment, et on va continuer à travailler et enrichir l'application dans ce qui crée de la valeur pour le client.
Alors, justement, par rapport à pour revenir à la carte d'embarquement dématérialisée, numérique, où s'en est sur mobile? J'ai l'impression qu'au niveau de l'adoption, les passagers, les voyageurs ont du mal à passer à l'embarquement à partir du mobile.
Ça se développe. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 téléchargement quotidien sur la carte d'embarquement, ça peut être beaucoup plus. Alors peut-être, vous avez raison, il y a peut-être des gens qui ont...
ils sont plus rassurés par
psychologiquement,
papier, non,
le fait d'avoir un papier les rassure, alors qu'aujourd'hui, les aéroports sont équipés, ils ont des lecteurs, etc. Mais je pense que ça prendra le temps qu'il faudra, mais aujourd'hui, c'est déjà bien adopté, mais ça va se développer, mais il ne faut pas forcer les gens, ils y viendront naturellement. Pour beaucoup de choses d'ailleurs.
Alors il nous reste une petite minute, François Baqueta. On a l'impression qu'en ce moment les transporteurs aériens se battent sur un sujet qui est le Wi-Fi à bord. On voit que voilà, les Américains se lancent, enfin aux États-Unis sur la plupart des compagnies, il y a du Wi-Fi à bord. Air France en parle, fait des expérimentations. Est-ce que demain sur EasyJet on pourra avoir du Wi-Fi parce que vous avez des vols qui sont quand même assez longs, on fait du moyen courrier, non?
En fait, ça représente très peu. Hein. Les vrais moyens courriers, par exemple, de Paris...
Non, mais je fais à Paris-Marrakech, par exemple.
Oui, c'est Paris.
C'est 3 heures.
Oui, c'est ça. Paris-Marrakech ou Paris-Tel Aviv.
Si je pouvais continuer à travailler, ça serait pas mal.
Oui, ça représente 2 ou 3% de nos vols. Donc, fondamentalement, vous venez de dire... Aujourd'hui, on ne le propose pas. C'est plus un sujet pour le long courrier, honnêtement, parce que le vol moyen EasyJet, vous savez, en ce moment-là, c'est la saison d'été, c'est 1400 vols par jour. Le vol moyen EasyJet, c'est Paris-Nice.
Donc c'est 1h15, quoi.
Donc en fait, qu'est-ce que vous voyez, les gens, ils ont leur tablette, ils téléchargent leur film avant de rentrer ou même en s'asseyant dans l'avion, et puis ils le regardent pendant. Il n'y a pas vraiment de besoin aujourd'hui. Après, on peut.
Donc c'est pas prévu.
Aujourd'hui, par contre, après si ça devient standard dans l'industrie, on l'adoptera, mais. Fondamentalement, sur des vols courts comme ceux que nous faisons, c'est pas très pertinent. Vous avez cité effectivement les quelques vols où ça peut être pertinent, mais ça représente 2 ou 3% de ce qu'on fait. Le vrai moyen courrier long, je sais pas, Israël, le Maroc ou autre, c'est très limité. Donc il n'y a pas d'urgence pour nous parce que les gens le font sans ça.
Parfait. Merci. Eh bien, merci pour toutes ces précisions.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
François Baqueta, je rappelle, vous êtes directeur général d'EasyJet pour la France.
Voilà, donc si vous prenez l'avion pour ces vacances, téléchargez l'appli.
Exactement.
Ça vous facilitera la vie.
Voilà.
Vous restez avec nous. La suite de l'atelier numérique sur BFM Business, on va poursuivre dans un petit instant. Ce sera notre web stratégie. On va parler de Smart City dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre passion selon Sanette. On va parler d'entreprises libérées grâce au numérique. Mais auparavant, notre web stratégie avec la transformation numérique de Veolia Environnement cette semaine. Et c'est avec vous, Lila Megraoua.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va s'attacher à mettre en lumière la transformation digitale d'un groupe qui a choisi de l'axer autour de la Smart City. Alors, pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Laurent Auguste. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Laurent Auguste, vous êtes directeur innovation et marché de Veolia. Veolia, rappelons-le, propose à la fois des solutions en matière de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. C'est ça ?
Oui, exactement. Veolia, c'est 200 000 professionnels dans plus de 40 pays et trois expertises majeures, l'eau, l'énergie et les déchets.
Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu quand et comment Veolia a commencé sa réflexion, sa mutation numérique ?
Dans la mutation numérique, il y a en fait deux termes, mutation et numérique. Moi, j'ai débuté chez Veolia dans le secteur de l'eau il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, on avait déjà beaucoup de capteurs. J'avais pas encore de téléphone portable, mais il y avait le Minitel. Et j'allais vérifier sur le Minitel la performance de nos installations, les courbes de remplissage des réservoirs. Donc le numérique, quelque part, est chez nous en place depuis très longtemps. La mutation, et je dirais même la révolution, la transformation de Veolia, est vraiment en cours, et notamment depuis 2 ans, de façon très très importante. Ça consiste à connecter de façon plus large l'ensemble des acteurs de Veolia dans le monde entier. Ça consistait aussi à faire sauter les barrières entre nos trois métiers historiques de l'eau, de l'énergie et des déchets, pour avoir une approche plus large de vis-à-vis de nos clients. Essayer de voir comment nos expertises peuvent apporter de la valeur ajoutée à nos clients, les villes ou les industriels.
Alors cette mutation numérique de Veolia s'axe autour de la Smart City. Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'articule cet engagement dans la Smart City ? Vous avez annoncé en automne dernier un partenariat global avec IBM pour une offre Smart City. Où s'en est ?
Donc effectivement, la Smart City est une dimension très importante pour Veolia parce que c'est une dimension nouvellement importante pour les villes. Il s'agit en fait, au-delà des aspects techniques de nos métiers, d'apporter une nouvelle dynamique de croissance, de développement économique et social pour les villes. Quand on parle de Smart City, on peut y penser en trois dimensions. Il y a la dimension des capteurs, des compteurs intelligents, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Il s'agit d'aller récupérer de l'information sur le terrain, sur les réseaux d'eau, etc. Ensuite, il y a une dimension que j'appellerais moi métier. Il s'agit là d'aller traiter ces informations avec des algorithmes spécifiques à nos activités pour l'efficacité et la bonne gestion des services que nous gérons. Et ensuite, il y a une troisième dimension qui est en train d'émerger et qui est, à mon sens, absolument passionnante, qui est la dimension d'ouverture de l'ensemble de ces informations pour la ville, pour les acteurs de la ville. Et cette dynamique qui va en être de transparence, d'ouverture de données, de nouvelles idées qui vont être à l'origine de nouvelles dynamiques sur la ville. Donc nous nous sommes effectivement associés avec IBM. IBM a été à l'origine, quelque part, du concept de ville intelligente il y a déjà plusieurs années. Moi, j'étais à ce moment-là aux États-Unis et j'interagissais déjà avec IBM. Et ce concept, en fait, qui donne envie, est en train, je dirais seulement maintenant, de se matérialiser. Et Veolia est l'entreprise qui va pouvoir rendre la ville intelligente réelle, le transformer en une réalité.
Concrètement, qu'est-ce qui a déjà été mis en place dans les villes ?
Donc concrètement, on commence bien sûr autour de nos métiers. Par exemple, à Lyon, autour de l'instrumentation du service d'eau. À Lyon, on a installé 400 000 compteurs intelligents, plus de 6 000 capteurs pour avoir une connaissance très fine de ce qui se passe sur le service d'eau et améliorer sa performance. On a mis ensuite en place un système d'hypervision avec IBM pour entrer dans la transparence quelque part de ce qui se passe sur le service et conduire à plus d'efficacité.
Qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de quantifier, de gérer, voire d'endiguer ?
Quand on est un gestionnaire de services d'eau, par exemple, comme à Lyon, bien sûr, une des premières choses à laquelle on pense, c'est les fuites. Ça, c'est la hantise d'une personne qui gère un service d'eau. Et avec l'ensemble des systèmes et des capteurs qu'on a mis en place, on peut aujourd'hui mieux anticiper ce qui se passe sur le réseau, donc anticiper les fuites et donc les réparer avant que ça ne cause de dégâts. De ce fait, limiter bien sûr l'impact pour les gens, pour la ville, et réduire les fuites d'eau. Et sur Lyon, on estime que nous allons pouvoir économiser près de 33 000 mètres cubes d'eau par an. Donc un impact fort sur l'efficacité du service.
Alors justement, les compteurs intelligents, on en parle depuis des années. Où s'en est, où en est-on de l'adoption du côté des consommateurs, tout simplement ?
Alors, les compteurs intelligents, il y en a beaucoup d'installés par Veolia. Nous sommes certainement l'entreprise qui en a installé le plus en France, près de 2 millions de compteurs intelligents déjà en place. Donc, c'est une réalité. Ce qui est en train d'arriver et d'émerger, c'est quelque part, au-delà de l'utilisation que nous en faisons pour la gestion de nos services, c'est l'interaction, l'interface avec les gens, avec les citoyens. Et donc, on avance sur des expérimentations en la matière, à Bourg-en-Bresse et à Nice, par exemple, où les habitants de logements vont pouvoir avoir de l'information grâce à ces compteurs intelligents et grâce à cela, mieux maîtriser leur consommation d'eau ou d'énergie, réduire les coûts et devenir acteur, en fait, de ces consommations de façon plus large.
Tout ça, j'imagine que ça amène à minima l'évolution des métiers chez Veolia. Est-ce que ça mène également à l'émergence de nouveaux métiers ?
Donc ça, c'est la grande question et c'est la partie qui est complètement enthousiasmante de ce qui est en train de se passer. Si je prends quelque part une image, historiquement, Veolia, je vous disais tout à l'heure, on a des capteurs et je prendrai l'image d'un ordinateur. Donc on travaillait sur le disque dur, voilà la partie hardware. Aujourd'hui, on met en place l'écran, l'élément de supervision qui va apporter de la transparence pour nous, pour la ville, mais demain pour l'ensemble des acteurs. Ensuite viennent le clavier, viennent les développements du type Internet et donc des solutions, des dynamiques nouvelles qui vont se développer et qu'on a besoin aujourd'hui de pouvoir inventer. Si je prends un exemple dans le domaine des déchets, aujourd'hui, demain, il sera possible si sur le trottoir vous voyez des déchets encombrants, de prendre une photo, de nous envoyer un SMS et derrière on pourra organiser l'enlèvement de ce déchet encombrant. Donc ça vous permettra de devenir un acteur de la ville, d'impacter ce qui se passe dans votre environnement au niveau de la ville. Et ça fait partie des services, des dynamiques nouvelles qui vont pouvoir se développer.
Laurent Auguste, merci. Je rappelle, vous êtes directeur innovation et marché de Veolia.
Merci Lila. On revient dans un instant. Suite de cet atelier avec notre passion selon Sanet sur BFM Business. À tout de suite.